On parle également ce soir de ce nouveau drame dans la Manche. 112 personnes à bord du même bateau pneumatique qui sont parties ce matin vers 5h de Vimereux dans le Pas-de-Calais, direction le Royaume-Uni. Le bateau a eu une défaillance motrice. Les personnes sont tombées à l'eau. On compte 5 personnes décédées, dont une fillette. On va tout de suite retrouver Anne-Sophie Varmont. Vous êtes donc à Vimereux. Racontez-nous ce qui s'est passé précisément tôt cette nuit.
Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce lundi à ce mardi vers 5h30 du matin. Une centaine de migrants embarquent sur un canot pneumatique de fortune, un small boat comme on les appelle. Et vous l'avez dit, il y a une défaillance moteur qui en fait engendre un mouvement de foule sur le bateau. Plusieurs personnes tombent à l'eau et parmi ces personnes qui sont tombées à l'eau, 5 vont perdre la vie, une petite fille et 4 adultes. Alors les autres personnes ont pu être secourues par les forces présentes sur place qui sont rapidement venues, notamment les pompiers. Ils ont pu les prendre en charge. Mais parmi cette centaine de migrants, une cinquantaine ont fait le choix de continuer leur route vers les côtes britanniques. Les autres, la cinquantaine restante, ont eux accepté d'être acheminés vers un centre d'accueil à Boulogne. Concernant les faits, je vous laisse écouter le préfet au micro de Pauline Delevoye.
Le bateau s'est trouvé en difficulté. Le moteur a été stoppé. Je vous dis, il y a plusieurs personnes qui sont tombées à l'eau, d'où l'engagement par le préfet maritime de la Baie Normandie. Et sur place, non seulement les personnes qui étaient à l'eau ont pu être secourues, mais on a constaté dans le bateau des personnes inanimées en grande difficulté. Et ce sont les six personnes qui ont été prises en charge et déposées sur la plage de Vimereux. Malgré les tentatives de réanimation, 5 d'entre elles sont donc décédées.
Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et association de malfaiteurs en bande organisée.
Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont. On a un peu le sentiment d'un drame humain qui se répète et contre lequel on ne peut rien. Paolo Lévy.
Oui, un énième drame humain terrible en Italie. On est désormais habitué à cette mer Méditerranée qui est devenue au fil des ans, notamment depuis 2015, un cimetière. Et là, j'ai l'impression que même la Manche, on assiste à une multiplication vraiment tragique et sinistre des tragédies en mer. Si mes souvenirs sont bons, les chiffres des naufrages et des morts ont bondi ces dernières années. Je pense rien qu'en 2024, c'est plus 20%. Et donc, tout cela pour dire que d'un côté, il y a un constat terrible, c'est-à-dire que face à ces drames, on devient de plus en plus indifférent, c'est-à-dire qu'au début, on se souvient tous de l'émoi que pouvaient susciter les tragédies qu'on a vues au large des côtes italiennes, qui avaient fait la une des grands médias européens.
Ça continue à faire la une, aujourd'hui, en France en tout cas.
Mais il y a une forme de, je ne sais pas, comme si quelque part on s'habituait, il y avait une forme d'impuissance face à ces drames récurrents, alors que pas du tout. Il faut intervenir, à mon avis, non pas uniquement à travers d'un point de vue de résoudre une urgence, mais d'un point de vue structurel. Donc, espérons que ce pacte asile et immigration, qui concerne aussi un volet humanitaire, puisse contribuer à changer la donne. Mais ce qu'on voit aujourd'hui est inacceptable dans un pays comme la France ou en Europe en général.
Vous parliez des chiffres. On en est à 15 migrants décédés en 2024 seulement, des tentatives de traversée. C'était 12 migrants en 2023. Donc, ce nombre est en hausse.
Oui, un nombre en hausse, mais sur un nombre de passages, notamment dans la Manche, qui a explosé. Là-dessus, on le voit bien, sur des tentatives qui augmentent. On voit la situation en Méditerranée centrale, qui est la route la plus dangereuse du monde, à tel point que toutes les organisations internationales parlent d'un cimetière marin. On ne prend même pas la peine de repêcher les gens. On ne peut même pas rendre les corps. On évoque en fait plusieurs dizaines de milliers de morts et de disparus. Donc là-dessus, le pacte asile-immigration dont vous parliez à l'instant, il a été voté au niveau européen après des années d'atermoiement la semaine dernière, il y a quelques jours. Il est surtout extrêmement restrictif. Est-ce qu'on va enfin permettre à des bateaux d'aller chercher ces gens en mer, d'aller les sauver? Là, pour l'instant, on n'a pas de fonds qui sont dédiés à ça. Ce sont des associations, ce sont des citoyens européens qui viennent en aide à des associations comme SOS Méditerranée qui affrètent des bateaux. SOS Méditerranée, c'est l'association, ça c'est l'ONG qui est basée à Marseille et qui est française, mais il y a la même chose en fait en Italie, mais surtout en Allemagne, etc. Donc là-dessus, on a abandonné les frontières. Sont absolument meurtrières en Europe. C'est une doctrine qui est absolument sévère. Et vous évoquiez à l'instant les images qui nous ont fait... Enfin, souvenons-nous, le petit Thaïlande qui nous avait tous complètement bouleversés en 2015, qui montrait en fait la détresse des Syriens qui arrivaient sur les plages grecques. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où sont passées ces images? On est là, une fillette morte d'une fillette, on en parle, c'est bien. Mais est-ce qu'on a parlé des derniers naufrages qui se sont déroulés au large de l'Italie? Là, c'est parce que ça touche la France.
Alors justement, peut-être, je vous donne la parole dans un instant, mais on va faire le point avec Lisa Hadef sur ce qu'on sait de ces tentatives de traverser dans la Manche ces derniers temps, ces derniers mois.
Les derniers chiffres dont on dispose, Julie, sont ceux de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ils datent du début d'année 2024 sur les données recueillies lors de l'année 2023, donc l'année dernière. Il y a eu moins de tentatives de traversée de la Manche des migrants depuis les côtes du Nord et du Pas-de-Calais. 35 800 migrants ont été secourus ou accompagnés en mer. 12 exilés sont morts. 4 autres ont disparu en tentant de traverser la Manche. C'est 3 fois plus que l'année précédente. C'est donc 3 fois plus qu'en 2022. Les migrants prennent plus de risques que les années précédentes également. Ils partent de plus en plus au sud du Pas-de-Calais, ce qui les force à affronter une météo plus changeante et à passer plus de temps en mer. Et il y a aussi de plus en plus de monde sur les embarcations de fortune. En 2022, en moyenne, on comptait 30 passagers par bateau. En 2023, 50 personnes embarquent sur un seul petit bateau gonflable. Et sur ces bateaux, il y a aussi de plus en plus de femmes et de très jeunes enfants. Autre conséquence, les traversées par camion sont à nouveau en augmentation. Ce moyen de passage, qui était très utilisé autour de l'année 2016, avait été délaissé après la sécurisation du port de Calais en 2018. Et le 27 janvier dernier, en 2024, donc, un jeune migrant est décédé alors qu'il était caché justement dans la remorque d'un camion.
Merci beaucoup, Lisa. Perico, il y a quoi derrière? C'est le commerce des passeurs aussi qu'on n'arrive pas, auquel on n'arrive pas à mettre fin?
Il y a une dichotomie entre des institutions et une politique européenne qui est à bout, qui n'arrive pas à juguler, et un discours humanitaire respectable, mais totalement irresponsable, qui dit aux gens, venez mourir chez nous. Alors on constate, évidemment, ça permet de dire, voyez quelle horreur ces migrants, mais on les appelle de bon cœur en disant, venez chez nous, on sait qu'on les conduit à la mort, mais on se donne bonne conscience quand on est un petit peu à gauche dans l'humanitaire, en disant, venez, nous sommes responsables, c'est nous qui sommes à l'origine de votre misère, donc venez, vous allez réparer ça chez nous, vous pourrez rentrer, on pourra vous accueillir.
Personne ne dit ça, Perico.
Alors pourquoi viennent-ils?
Mais parce qu'il y a des guerres,
parce qu'on leur dit pas la vérité, en Syrie.
Pourquoi sont-ils venus? Il y a eu des guerres. Regardez l'état du Congo. Regardez du Soudan. Personne ne les invite. Pourquoi viennent-ils du Sénégal? Je ne parle pas de cela.
Je parle de la Côte d'Ivoire qu'on a trouvé à Lampedusa. Je ne parle pas de ceux qui sont confrontés à une véritable.
Mais ce soir, on parle de la Manche. Il faut expliquer la Manche.
À cause du mensonge.
Parce que ça n'a rien à voir avec la Méditerranée.
À cause du mensonge politique. Au lieu de sauver les gens qui ont besoin d'être sauvés, qui sont en danger de mort, on dit à tout le monde de venir et on ne fait plus la différence. Et il y a des gens qui pourraient rester chez eux, qui viennent et qui prennent quelque part la place de ceux qui ont vraiment besoin de
ceux. Il faut rétablir la réalité des faits.
Mais ça se paiera dans les urnes.
On parlait de la traversée de la Manche par des bateaux, des petits canaux pneumatiques, avec parfois jusqu'à 110 personnes, donc quand même des traversées extrêmement dangereuses. Pourquoi veulent-ils aller en Grande-Bretagne? C'est ça la question. Le chiffre est très faible.
C'est
un
début.
On parle de 35 à 40 000 personnes au maximum par an.
Attendez, laissez-le terminer.
Il faut au moins expliquer d'où viennent-ils? D'Afghanistan. Pourquoi? Chute de Kaboul, les talibans au pouvoir. D'Irak, guerre civile, Daesh. D'Iran, dictature des mollahs. Ils viennent aussi des Indes et du Bangladesh. Et pourquoi veulent-ils aller en Grande-Bretagne? Et pourquoi ne s'arrêtent-ils pas en Europe? Parce qu'ils ont de la famille en Grande-Bretagne. Il y a des diasporas d'origine indienne ou asiatiques qui sont extrêmement nombreuses. Et la plupart de ces migrants qui veulent traverser la Manche illégalement, ils veulent tout simplement rejoindre leur famille. Et c'est très important de le rappeler, ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux en France. Donc, ils évitent les contrôles et ils veulent aller en Grande-Bretagne. Ça, c'est la première chose. Le chiffre est très faible par rapport à la Méditerranée. Le chiffre en Méditerranée, bon, c'est 150 000, 200 000, 300 000 personnes.
C'est qu'un début.
C'est beaucoup plus important. La Manche, c'est un problème spécifique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à propos de la Manche? C'est que le gouvernement britannique a décidé d'essayer de lancer une série de mesures pour mettre fin au passage des canaux pneumatiques. En Grande-Bretagne, on appelle ça « stop the boats ». Et pourquoi le gouvernement britannique est si actif et répressif sur cette migration clandestine? Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Le gouvernement conservateur aujourd'hui est en difficulté. Il va probablement perdre les élections qui auront lieu dans quelques mois. Et il prend des mesures spectaculaires pour dire à son opinion publique « je m'occupe de la migration ».
Donc des
et
mesures électoralistes
chose,
selon vous.
Et la deuxième
et
chose, c'est que ce qui est vrai, et là c'est un problème qui touche toute l'Europe, et la France en premier lieu, comme l'Italie, c'est que l'Europe se referme sur elle-même. Les populations européennes ont, je dirais, peur, entre guillemets, et redoutent des migrations qui vont augmenter au cours des prochaines
Absolument.
Années. C'est vrai.
Et
donc, elles ont peur et elles veulent se protéger. D'où le succès des mouvements populistes du Rassemblement National en France qui joue sur cette situation et qui dit il faut prendre des mesures drastiques pour couper ce flot de migrants.
Alors, on est avec le maire de Vimereux, où le drame s'est déroulé. Jean-Luc Debelle, merci beaucoup d'être avec nous. Votre commune, donc à nouveau touchée par un drame humain. Qu'est-ce qu'on ne fait pas suffisamment pour prévenir, selon vous, cette situation ?
Bonsoir à tous. Oui, c'est encore un drame de plus sur ma commune. Hein. On en a eu un en début mi-janvier, là, avec 5 décès encore aujourd'hui, 5 décès aujourd'hui avec une petite fillette de 7 ans. Aujourd'hui, ce que moi j'attends des autorités, c'est qu'on ait un peu plus de police et de surveillance sur mon territoire, chose qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui. On a vu, c'est une première, hein, 110 migrants sur un bateau. Ça devient vraiment inacceptable. On peut pas laisser partir des gens à l'abattoir comme ça. C'est scandaleux, c'est honteux. Les passeurs, ce sont vraiment des assassins. C'est clair. Moi, j'ai pas honte de le dire. L'État britannique, ils profitent de la situation. Ils nous payent pour qu'on se taise. Et ça, c'est inadmissible. On peut plus l'accepter de cette manière-là. C'est scandaleux. Aujourd'hui, ils ont fait voter une loi pour envoyer les migrants au Rwanda. C'est pas ce qui va régler le problème. C'est vraiment simpliste de leur part. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'antenne, c'est vraiment purement politique pour au niveau des élections qui approchent. Et c'est vraiment honteux
vous
et scandaleux
de
profiter de cette situation-là.
Selon vous, les autorités britanniques sont responsables aussi de cette situation ?
Bien sûr, tout à fait. Et je le dis depuis très longtemps. Les responsables aujourd'hui, ce sont les Britanniques. Posons-nous la bonne question, pourquoi les migrants veulent aller en Angleterre? Pourquoi ils veulent aller en Angleterre? Parce que c'est l'économie anglaise. Ils n'ont pas de main-d'œuvre. Donc ils prennent de la main-d'œuvre de migrants, pas cher. On leur donne un compte en banque. On leur donne du travail sans contrat de travail. On leur donne un logement. Ben voilà pourquoi les migrants veulent aller chez eux.
Le Brexit
et aujourd'hui, c'est
étonnant.
Aujourd'hui, on les laisse passer et maintenant on les envoie au Rwanda. Et ben pourquoi on règle pas le problème plus haut plutôt que de les envoyer au Rwanda une fois qu'ils arrivent en Angleterre et qu'ils risquent leur vie.
Et nous, c'est enfin, les mesures nous, prises par les deux gouvernements.
Je suis démunis en tant que maire de la commune.
Oui. Il faut rappeler quand même, c'est vrai, vous avez raison, et je comprends parfaitement votre détresse et votre colère aujourd'hui face à la mort d'une fillette de 7 ans. Mais il y a quand même eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a eu des accords entre la France et la Grande-Bretagne pour limiter le trafic des passeurs. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ce problème politique dont on a parlé, il y a ces migrants qui continuent d'arriver malgré tout, mais il y a aussi des passeurs qui en profitent. Et il y a un trafic d'êtres humains absolument scandaleux, qui existe aussi en Méditerranée. Pour lutter contre ce trafic-là, les Français comme les Britanniques ont multiplié les patrouilles, soit sur la côte, monsieur le maire pourrait en parler, côté français, mais également des patrouilles navales côté britannique. Et les pêcheurs jouent un rôle, je dirais, admirable, parce que lorsqu'ils sont confrontés à des situations de détresse, eh bien ce sont eux qui sont les sauveteurs en mer de ces migrants. Donc il faut
le droit de la mer le prévoit.
Il faut oui mais il faut leur rendre hommage.
Oui, oui bien sûr bien sûr. C'est quand même prévu par le droit de la mer.
Mais il y a eu quand même des centaines de millions d'euros qui ont été débloqués depuis 10 ans maintenant. Parfois des batailles politiques entre Londres et Paris parce que chacun se renvoyait la balle. C'est pas uniquement la faute des Britanniques ou la faute des Français. C'est la France comme la Grande-Bretagne qui sont confrontés à un problème de migration qui est de plus en plus important.
Qui encourage les passeurs? Comment les passeurs peuvent-ils agir avec autant de facilité depuis si longtemps malgré 15 ans de litanie de prévention et d'indignation? Ça continue, il y a bien quelqu'un qui est complice.
On remercie le maire de la ville de Vimereux. Merci beaucoup Jean-Luc Debelle d'avoir répondu à nos questions. Vous évoquez justement cet accord, ce texte signé entre le Royaume-Uni et Kigali, le Rwanda, qui prévoit qu'une partie des demandeurs d'asile qui arrivent illégalement au Royaume-Uni seraient renvoyés au Rwanda. C'est au Rwanda donc que leur demande d'asile sera étudiée. Et si la demande est validée, ils s'installeront au Rwanda. Et en échange, le pays va empocher des dizaines de millions d'euros. C'est ça, Ulysse ?
Des centaines de millions d'euros. C'est une opération financière absolument incroyable qui a été lancée par le gouvernement britannique actuel, mais qui, à l'origine, est une loi qui a été proposée par Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique. C'est lui, vous savez, qui avait été à l'origine du Brexit. La Grande-Bretagne ne fait que durcir ses lois sur l'immigration et aujourd'hui en Grande-Bretagne, si on arrive illégalement, on ne peut même plus demander l'asile. C'est clair, c'est net. Alors, ceux qui sont rentrés quand même, eh bien, on veut effectivement les renvoyer, non pas chez eux, parce que ça serait illégal, entre guillemets, et contesté en Grande-Bretagne même, mais le projet de loi prévoit effectivement qu'ils soient envoyés au Rwanda. Ça a pris 2 ans de guérilla judiciaire entre... D'un côté, les gouvernements conservateurs, tous les premiers ministres qui sont succédés depuis Boris Johnson, l'opposition travailliste, mais aussi la Chambre des Lords et les organisations humanitaires qui protestaient contre ce précédent extrêmement dangereux. Il faut rappeler qu'il y a un pays dans le monde qui a déjà fait ça, il y a maintenant près de 20 ans, c'est l'Australie. Face à l'arrivée massive de migrants, les Australiens ont déporté sur 2 petites îles en plein océan Indien,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
et sur l'îlot de Nauru qui fait que 350 km², des centaines de migrants qui se trouveraient mais vraiment dans des camps de migrants dans des conditions insupportables et qui ont été dénoncés partout dans le monde. Donc il y a eu l'Australie et maintenant il y a la Grande-Bretagne. Et c'est très important parce que c'est une sorte de précédent qui va sans doute inspirer d'autres gouvernements européens.
Et
il y a déjà un pays qui fait la même chose d'ailleurs aussi, c'est l'Italie.
Avec l'Albanie.
Qui envoie ses migrants en Albanie.
Mais le Danemark avait aussi tenté en fait de faire la même chose avec le Rwanda, n'a pas réussi. Et du coup, parce qu'il n'a pas réussi, a véritablement durcit sa politique migratoire il y a encore quelques mois.
Ça va coûter extrêmement cher à la Grande-Bretagne et ça va rapporter beaucoup au Rwanda. Juste un chiffre, les 300 premiers migrants illégaux qui vont être envoyés au Rwanda, s'ils y vont, parce qu'il peut y avoir encore des recours de justice, eh bien, la Grande-Bretagne va verser pour chaque migrant 2 millions d'euros. 300 multiplié par 2, ça fait 600 millions d'euros. Vous imaginez la somme colossale pour 300 personnes qui vont être envoyées dans un hôtel de Kigali où leur sort va être examiné par un tribunal local. C'est un peu extravagant. L'opposition travailliste parle d'un gadget. Mais côté du gouvernement, on dit que c'est la seule façon d'envoyer un message dissuasif aux migrants et aux passeurs.
Et pour empêcher les traversées de la Manche, le Rwanda qui s'en réjouit. J'aimerais qu'on écoute Christophe Barbier là-dessus. C'est externaliser en quelque sorte les procédures de demande d'asile. C'est plus nous qui les traitons, le Rwanda qui les traitera.
Non, c'est pas ça externaliser. Externaliser, c'est le pacte migratoire européen qui est certes restrictif mais qui est protecteur puisqu'il va arrêter les migrants avant qu'ils se lancent sur les mers dans des embarcations de fortune et qui va demander à traiter leur demande d'asile avant cet embarquement pour le naufrage et pour la mort. Donc ça, c'est protecteur, même si c'est en effet restrictif. En revanche, une fois qu'ils sont arrivés, sous-traiter cela à des pays où on ne sait trop d'ailleurs qui va aller, parce que ça ne concerne ni les mineurs, ni les femmes, ni les familles. Donc déjà, l'efficacité sera limitée. Où on ne sait pas comment ces migrants seront traités, parce que le régime du Rwanda est un régime quand même un tantinet autocratique, même si économiquement, il se porte bien. Ça n'est pas possible. On est dans de la traite d'êtres humains à l'envers. C'est-à-dire on paye plus pour acheter des esclaves, on paye pour se débarrasser d'une main-d'œuvre qui était arrivée pour travailler de manière clandestine ou pas chère. Ça n'est pas acceptable. Si on doit ramener ces gens chez eux, c'est dans leur pays. Il faut les renvoyer parce qu'ils sont entrés illégalement dans leur pays.
Oui, mais sauf bien sûr
si c'est un pays.
Non,
si c'est un pays en guerre. Si c'est un pays en guerre, si c'est un pays en famine, il y a le droit d'asile pour les réfugiés. Donc on instruit leur demande d'asile, vous venez d'Afghanistan, on ne vous renvoie pas chez vous. Vous venez du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou d'autres pays considérés comme tranquilles ou au moins comme vivables, eh bien, vous repartez chez vous. Et on entretient un rapport diplomatique fort, puissant et s'il le faut, coercitif avec ces pays pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. On ne sous-traite pas cela à des pays dont on ne va pas contrôler, même si on les paye, comment ils vont traiter les migrants et ce qu'ils vont devenir. Parce que le migrant qui est arrivé au Royaume-Uni, qui se retrouve au Rwanda, qu'est-ce qui se passe ? Il demande l'asile. Il est refusé. Que va faire le Rwanda ?
Il doit l'expulser.
Vers où ?
Eh bien, on ne sait pas. C'est et bien voilà, des problèmes.
Et, voilà.
C'est
et donc, ça n'est problèmes. Pas possible de soutenir à la
loi. Dans cette loi, ce qui est absolument incroyable, c'est que le migrant, qui, par exemple, l'Afghan qui va arriver à Kigali, vous imaginez, ou l'Indien, tout simplement, il n'a pas le droit de revenir en Grande-Bretagne. Mais quelle que soit la décision, que son statut soit accepté ou refusé,
il n'ira pas au Royaume-Uni.
Il ne peut pas.
Eh ben, il rentrera pas chez lui s'il est afghan. Est-ce qu'il sera libéré dans la nature au Rwanda ? Est-ce que le Rwanda se dit je vais les intégrer ?
Mais on commence à voir effectivement, et là par exemple, ce qui s'est passé sur la politique migratoire qui a été adoptée au Danemark, on voit que même sur les questions de demande d'asile, on a aujourd'hui le Danemark qui a décidé de faire d'accepter, mais de manière temporaire. Vous avez le droit à 2 ans d'asile, et ensuite on va ouvrir. Voilà. Ouais, mais là aussi, c'est-à-dire que normalement, mais là on voit bien que d'un point de vue général, on a signé globalement des textes sur la protection. Et on voit que d'un pays à l'autre, et là on va le voir avec l'Italie qui est en train de sous-traiter petit à petit
à l'Albanie,
que en fait cette question du droit d'asile est là aussi au-delà même de l'exil et des migrants.
Est-ce qu'on va pas contre aussi la Convention de Genève et son principe de non-refoulement? Oui. Qui dit que on ne renvoie pas dans son pays d'origine un demandeur d'asile sans avoir examiné sa demande. C'est contre nos grands principes.
Non, tout à fait. En Italie, il y a eu, cette annonce du gouvernement de Giorgia Meloni de tenter d'externaliser l'examen des dossiers des migrants qui arrivent, non pas sur le sol italien, mais en Albanie. Meloni a signé un accord bilatéral avec Tirana, justement, à cet effet. Chose qui, bien sûr, a eu un effet d'une bombe dans le débat public italien parce que, d'éminents juristes disent que ça contredit toutes les conventions signées par l'Italie au niveau européen, mais même international. Le dossier est actuellement à l'étude de la Cour de justice européenne qui va se prononcer. C'est pour ça que maintenant, Meloni, elle est très discrète sur ce thème. Et moi, je pense que ça va être... retoqué parce que
On va laisser passer les élections parce que
c'est pas possible.
Ceci si les travaillistes.
Je termine sur ce thème des migrants. Je pense plus en général, si on est dans la apatrie de Descartes, il faut être tout simplement rationnel, ne pas raisonner avec l'estomac. Il faut être très très objectif et serein. L'Europe a un besoin criant de main-d'œuvre.
Oui, mais elle doit la choisir, cette main-d'œuvre.
Tout à fait.
Là, elle ne la choisit pas.
Il y a des moyens. On est quand même le continent le plus riche au monde. On a quand même des moyens pour, de façon rationnelle, cartésienne, instaurer des voies légales.
Oui, mais on n'intègre plus par l'école, par le travail, par l'urbanisme. On n'arrive plus à intégrer. Et on crée des situations explosives qui se retournent contre les migrants.
Michel Rocard,
très attention.
Oui, il faut trouver un bon équilibre.
C'est cartésien.
Michel Rocard,
merci à vous. Merci beaucoup, Ulysse.
Vous avez posé la question.
Pour vos éclairages.